Voilà, donc nous allons continuer sur ce thème de l'esprit et de la joie. Et on pourrait dire que la source, la plus grande source de notre joie, c'est le fait que c'est la joie de Dieu, que nous sommes aimés de Dieu et que Dieu nous fait miséricorde. Il a un cœur qui prend toutes nos misères. Et du reste, lorsque nous sommes en difficulté, autant se jeter dans le cœur de Dieu. Ce qui fait que très souvent dans la confession, les gens s'attendent d'avoir une pénitence musclée. Je leur dis non, vous vous jetterez plutôt dans les bras de Jésus. Ça vous sera beaucoup plus utile et ça les fera beaucoup plus plaisir que de vous pincer les fesses hein, pour vous faire mal. Et donc, la plupart des misères du monde viennent du fait qu'on ne s'imagine pas qu'il y a un amour prévenant qui est au-dessus de nous et qui veut nous attirer en lui, qui veut nous prendre justement dans ses bras, nous consoler et nous guérir, en fait, de toutes nos misères. Alors, je vous avais donné l'étymologie du mot miséricorde. Hein, donc, le plus facile à retenir, c'est que dans ce mot, il y a misère et cœur, et que c'est un cœur, le cœur de Dieu, qui veut prendre toutes nos misères. Et ce cœur de Dieu prend toutes nos misères en les prenant sur lui, donc, il les prend sur lui par le sacrifice de la croix. Vous savez que dans l'ancienne alliance, les sacrifices, ben, pour finir, ça coûtait pas trop, juste au porte-monnaie, puisqu'on sacrifiait une bête. Voilà pourquoi, du reste, durant l'Ancien Testament, les prophètes partent souvent en pétard contre les gens qui sont pas fous. Ils donnent les bêtes les plus moches. La plus belle, il vaut mieux la vendre au marché ou la garder à manger pour soi. Hein. Mais là, l'agneau sans tache, c'est Jésus qui, pour nos péchés, donne sa propre vie, son propre sang. Bien justement, ce que nous célébrons dans toute Eucharistie. Et donc, le mot hébreu est encore plus éclairant. Je vous avais déjà donné de multiples fois ce sens hébreu. C'est le même mot que les entrailles de la femme, rahamim. Donc la miséricorde de Dieu, ce sont ces entrailles d'amour qui donnent son sang. Et je vous avais indiqué, si vous en rappelez, l'année dernière, même ce qui est le plus intime à une femme, elle ne le voit pas. Elle en voit les effets secondaires de façon mensuelle, mais aucune femme n'a vu ses entrailles. Et pourtant, elle sait fort bien que c'est le lieu qui porte la vie. Et donc, inversement, les entrailles de la miséricorde de Dieu, avec tout le sang qui donne la vie au monde, vous voyez, c'est comme si tout était inversé. Ce qui est à l'intérieur de la femme, en Dieu, ça passe à l'extérieur, et c'est le corps de Jésus sanglant sur la croix. Et mine de rien, c'est un peu, si vous voulez, c'est comme si toute l'histoire du monde s'inverse. Hein, ce qui était intérieur devient extérieur et nous est offert à tous. Donc, la source profonde de la joie, c'est cette miséricorde de Dieu qui nous donne sa propre vie par son propre sang sur la croix. Hein, qui m'a vu a vu le Père, et bien qui a vu mes entrailles d'amour a vu les entrailles du Père. Donc ce Dieu qui est caché se donne visible en quelque sorte sur la croix. Donc, tant qu'une personne n'a pas connu cette miséricorde de Dieu, hein, la personne a tendance à se replier sur elle-même, à essayer de se protéger plutôt que de s'exposer, recevoir le sang de l'amour de Dieu. Et la plupart des pathologies du monde qui sont liées à la misère et qui sont liées à la misère par notre absence ou notre miséricorde déficiente, hein, étant donné que le monde est uniquement basé sur l'argent et la jouissance de l'argent qui se referme sur un égoïsme, et nous, chrétiens aussi, nous sommes ainsi faits, enfin, hélas, à travers ce monde, et bien comme dit le pape, hein, certaines pathologies augmentent, la crainte de la désespérance s'empare du cœur de nombreuses personnes, jusque même dans les pays les plus riches, parce que nous, chrétiens, qui devrions être aussi miséricorde et entrailles d'amour pour nos frères et donner notre vie pour nos frères, se referment même parfois sur des communautés chrétiennes qui se satisfassent profondément en elles sans s'ouvrir sur les autres. Voilà pourquoi le pape nous incite à cette ouverture. Car nous fermant, ne nous ouvrant pas pour être miséricordieux pour les autres, nous nous fermons aussi à la miséricorde que Dieu veut nous faire. Hein, c'est ce que dit Jésus, je ne vous ai jamais connu. Alors que ceux qui font miséricorde, ah ben c'était là que tu étais Seigneur, on s'en était pas rendu compte. Alors il y a urgence. Cette urgence est très forte à l'heure actuelle, mais bon, étant du Carmel, elle était là déjà au XVIe siècle. Parce que déjà le monde était en feu. Hein, non pas ce feu de l'amour, mais ce feu de l'égoïsme personnel et dans cette Espagne du XVIe siècle, qui pensait plus à exploiter les Indiens qu'à leur porter la parole de Dieu jusqu'à se poser la question de savoir si les Indiens avaient une âme. S'ils n'en avaient pas, c'était super, on pouvait les exploiter comme on voulait. Vous voyez, jusqu'où peut aller l'esprit tordu, même chez les chrétiens. Donc, à l'heure actuelle encore, le monde est en feu. Hein, Sa Majesté, comme je vois des maux si grands que les forces humaines ne suffisent pas à maîtriser cet incendie, bien qu'on ait essayé de lever des gens pour tenter par la force des armes de remédier, à travers, vous voyez, les armes ne font rien, de remédier à un mal si grand qui ne cesse de croître pour... Thérèse d'Avila, c'était le protestantisme, calvinisme et luthérianisme, et qui, pour des raisons politiques, pensait à la Saint-Barthélemy. On a essayé d'éliminer les protestants, mais enfin, de leur côté, les calvinistes dans la région genevoise n'ont pas été tendres, et partout ailleurs où ils étaient en force. Tout ça, c'est l'horreur de l'humanité, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Et donc, le moyen le plus efficace, c'était de prier. Et vous rappelez que le Seigneur l'avait incité à s'enfermer pour évangéliser. Voyant donc tout le panneau de l'évangélisation qui peut aller de la contemplation jusqu'à la prédication directe. Mais c'est un impératif. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Marc 16, 15, 16. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc offrez-leur l'Esprit Saint par ce sacrement, dans le fond. Matthieu 28, 16, 20. Et nos papes nous disent, hein, entre autres notre pape actuel, reprenant Jean-Paul II, « Il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur. Hein, » Ce n'est pas en montrant qu'on est super sympa, mais voilà, je vous dis d'abord, en vivant du Christ, je vais y venir, et puis ensuite... les gens ne se convertiront pas parce qu'on est sympa, mais parce que, voyant qu'il y a quelque chose de nous de différent, eh bien, ils vont ensuite demander pourquoi. Eh bien, nous, c'est à cause du Christ, et pas à cause d'autre chose. Et Jean-Paul II affirmait que l'Église doit accomplir son destin providentiel, hein, puisque nous connaissons la source du salut et le terme du salut, alors l'évangélisation comme une prédication, deviendra comme une prédication joyeuse, patiente et progressive de la mort salvifique et de la résurrection de Jésus-Christ, qui doit être une priorité absolue. Voilà. Alors, j'en viens à Thérèse d'Avila, qui, je vous disais, la haute spiritualité est souvent pleine de bon sens et très terre-à-terre. Et qui disait, entre autres pour les frères Carmes, puisqu'elle, elle s'est enfermée, elle a voulu des hommes pour s'occuper d'elle, entre autres les Carmes. Ben elle disait, voilà, on est comme un bassin. Alors, le trop-plein du Christ sort par le trop-plein du bassin. Et il faut que ce bassin, pour pouvoir donner la parole de Dieu, soit rempli. Si on le vide plus vite qu'il ne se remplit, eh bien, on va s'épuiser rapidement et on n'aura plus rien à porter aux autres. Et donc, l'évangélisation... commence d'abord, avant d'apporter aux autres, il faut que nous-mêmes, nous soyons évangélisés. Et nous serons évangélisés, vous l'avez compris, par les sacrements, mais aussi par tout le temps que je passe avec le Seigneur. Tout le temps que je passe à me recevoir de lui, à me laisser envahir de lui, pour que ce ne soit plus moi, mais que ce soit lui. À ce moment-là, le bassin est ouvert, et le bassin est plein, et il se remplit au fur et à mesure que je donne. Mais sinon, nous portons, nous ne savons même pas quoi. Et comme ce n'est pas spécialement le Christ, ben, ce sont des choses qui n'apportent rien aux autres, qui les déroutent, qui les mettent sur un mauvais chemin, et nous-mêmes, nous nous perdons. Donc, très important, les sacrements, tous les sacrements, et ensuite, laisser ces sacrements produire leur effet spirituel en eux, la grâce sacramentelle, et ensuite, donc, nous-mêmes, nous mettre toujours, qui que nous soyons, dans ce silence d'écoute de Dieu. Hein, par un mouvement simple. Un Dieu est simple, hein, c'est nous qui sommes des Shadok. Et le pape nous dit, il faut annoncer donc nous avons redécouvert que dans la catéchèse aussi, c'est important pour les catéchistes, la première annonce, qu'on appelle aussi le kérigme en grec, a un rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. Le kérigme est trinitaire, c'est le feu de l'esprit qui se donne sous forme de langue et nous fait croire en Jésus-Christ qui est mort, qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l'infinie miséricorde du Père. Et il nous dit, dans la bouche du catéchiste doit revenir toujours cette première annonce. Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Alors que va faire la miséricorde en nous ? Nous faisons l'expérience du pardon de Dieu. Entre parenthèses, merci à tous ceux qui sont venus se confesser durant ce temps de pèlerinage. C'est la première fois qu'il y en a autant. Retrouvez ce sacrement, n'ayez pas peur d'y aller, car Dieu se donne de façon surabondante et nous rencontrons après cette joie de Dieu qui nous libère de tout ce que nous portons. Et là aussi, c'est une ruse des forces des ténèbres de nous faire croire que nous pouvons porter. Nous portons, nous sommes centrés sur nous-mêmes pour essayer de porter et nous nous éloignons de cette miséricorde. La miséricorde exige que nous ouvrions nos bras pour la recevoir. Si on se ferme sur soi, on ne la reçoit pas. Et si nous la recevons progressivement, il se passe cette chose, c'est que nous-mêmes nous sentons, et je vous le disais, c'est important pour l'évangélisation, nous devons devenir miséricorde, miséricorde en acte. Ce qui fait que ceux qui sont donnés au Christ et qui vivent dans la profondeur de cette relation à Dieu ont envie de vivre profondément ce que le Christ a vécu durant toute son existence. Et donc de devenir eux-mêmes miséricorde en acte. On l'a souvent cité, c'est la prière de la petite Thérèse, la fin. Je m'offre comme victime d'amour à votre miséricorde. Je vous supplie de me consumer sans cesse. Donc il y aura les purifications, donc il y aura de la souffrance. Je vous supplie de me consumer sans cesse, déversant en mon âme les flots de votre miséricorde infinie, afin que je vienne au mon Dieu, une puissance de votre amour. Que moi-même, je sois miséricorde. Et donc la personne rentre, on pourrait dire aussi à ce moment-là, dans le mystère de Marie. Vous voyez, on peut être à Marie par des dévotions, c'est très bien. Par le chapelet, Marie nous apprend à rentrer, puisque tous les mystères nous font rentrer dans le mystère de son Fils. Mais rentrant dans le mystère de son Fils, comme elle aussi a été la première à le suivre jusqu'au pied de la croix, Marie nous fait désirer rentrer dans les sentiments du Christ et devenir nous-mêmes un prolongement ou de sa miséricorde. Maintenant qu'il est retourné au Père, dit une autre religieuse, qu'il m'a substitué à sa place sur la croix, personne n'y peut rien, elle est transportée dans une maladie mortelle, afin que je souffre en mon corps ce qui manque à sa passion pour le corps, pour son corps qui est l'Église. La Vierge est encore là pour m'apprendre à souffrir comme lui, et comme elle, on pourrait dire, comme elle a souffert. Et c'est ces choses-là qui sont les leviers les plus puissants pour l'évangélisation, ce qui justifie du reste toute la vie contemplative. Et le risque de la vie contemplative, de se refermer sur un certain confort. C'est sûr qu'on n'a plus les soucis du monde. Enfin, c'est l'intendant qui l'a, ou le prieur qui ont ses souffrances. Alors, vous en avez des preuves, par exemple, par Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, il est ce prolongement du Christ. Que c'est celui qui ne sait pas souffrir pour le Christ, dit Jean de la Croix. Point d'interrogation. Si on ne rentre pas dans cette profondeur d'amour et de miséricorde, que sait-on exactement du Christ ? Des choses peut-être trop superficielles qui touchent trop vers le sympa. Et donc cela nous permet de comprendre à travers nos souffrances existentielles, qui sont des souffrances comme dans ce Pélé, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément souffert, tous les gens qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des époux, qui ont eu des enfants gravement malades, tout ça ce sont des souffrances. Et puis des maladies, parfois incurables, tout ça sont des grandes souffrances. Eh bien, ce ne sont pas des châtiments, ce n'est pas un abandon de Dieu. À travers cela, le Christ nous fait pénétrer plus profondément dans son mystère. Ça veut dire qu'il nous associe à son mystère d'amour, qui n'a plus rien à voir avec des choses qui nous caressent suivant le sens du poil, mais ne sachez que vous n'êtes pas abandonné au cœur de cette souffrance, mais que vous êtes encore plus proche du Christ. Et que votre souffrance, si au lieu de se refermer sur elle, est ouverte à Jésus, il vous associe au mystère de sa rédemption, et cela sauve des âmes, parce que c'est la dernière des choses que nous aurions choisies. Un chagrin d'amour par la perte d'un enfant, par la perte d'un époux, par des maladies graves, ou par des problèmes parfois très très durs vis-à-vis des enfants. Une mère ou une grand-mère qui souffre pour son enfant ou ses petits-enfants, parce que les parents n'ont pas la foi qu'il y a des difficultés, bien, votre souffrance, c'est la souffrance de Jésus. Il vous associe à sa croix, et le sang invisible que vous versez de votre âme sauve ces âmes. Et nous rentrons ainsi, on pourrait dire, à travers ces souffrances. Hein. Vous savez que bon, Marie a toujours été dans la joie de son fils, elle a toujours été dans la joie de l'Esprit. Hein, on a cité l'Annonciation, on a cité la Visitation, mais elle a toujours aussi été simultanément dans la souffrance, puisque ça lui a été annoncé à travers le vieillard Siméon, « Un glaive te transpercera l'âme ». Donc souvent, la caractéristique chrétienne, nous l'avons déjà développée, c'est le fait que nous avons cette souffrance, mais qui est inséparable d'une joie, qui transfuse à travers tout cela. Et donc nous rentrons, on pourrait dire, au fur et à mesure que nous progressons, que nous sommes libérés de nous-mêmes, à travers ces souffrances qui nous détachent de nous-mêmes, nous rentrons dans la joie mariale et on pourrait dire aussi dans cette fécondité de la Vierge Marie qui nous place vraiment au cœur de l'Église. Voilà, ce n'est pas une Église connue de l'extérieur ou une Église à travers laquelle nous avons à faire des animations à l'intérieur. C'est une Église vraiment qui est une matrice. On parlait de la miséricorde. C'est une Église qui devient matrice qui engendre la vie du monde. Et ça nous place dans un mystère de profondeur qui est encore beaucoup plus profond que toutes les dévotions mariales que nous pourrions avoir. Parce que là, on entre vraiment dans le mystère donc du Christ et le mystère de la Vierge Marie, qui est un mystère de féminité, d'engendrer, de donner la vie, et bien plus que la vie dans la chair, c'est donner la vie à des âmes. Et ça, vraiment, c'est une action évangélisatrice, parce que la Vierge Marie n'a jamais évangélisé comme ça sur les places publiques. Mais cette offrande vraiment du plus profond d'elle-même, à travers ces souffrances inséparables de la joie de la rédemption, ces souffrances très amères, puisque le glaive lui transperce l'âme, et que vraiment, nous sommes, si on le désire, et si nous y sommes transportés par Dieu, ne pas se replier sur nous-mêmes, mais nous laisser transfuser par cet amour. Celui qui est dans l'Église reçoit l'Esprit, doit aussi s'en tenir à l'Esprit. Qu'il règne à l'intérieur du concret, dans le corps, l'Esprit du Christ est nécessairement l'Esprit ecclésial, l'Esprit de l'Église. Et Marie étant mère de l'Église, voyez-vous, toute souffrance peut vraiment aboutir à une fécondité ecclésiale. Et l'Esprit n'est pas là pour nous refermer sur nous et nous contempler nous-mêmes. Voilà.